Il y avait donc dans la synagogue un homme qui avait un esprit mauvais. Le texte dit un esprit impur. Et même le texte dit qu'il était tourmenté par un esprit impur, ce qui est une façon de s'avancer parce que littéralement, il était sous l'emprise. Il était littéralement à l'intérieur d'un esprit. Et même le mot latin dit immonde pour dire à quel point c'est peu ragoûtant. Mais ça ne dit rien de sa souffrance. Est-ce qu'on peut être sous emprise et sous une emprise maléfique sans en souffrir? Peut-être. Sans doute même soi-même, du moins en tout cas en cette vie. Ce sont les autres qui en souffrent dans ces cas-là. Ce sont les autres qui autour de nous subissent ce que les esprits mauvais nous font faire. L'illustration la plus remarquable dans l'Ancien Testament, c'est le roi Saül, qui, pris par un esprit mauvais, cherche à clouer David de sa lance. Cet homme était donc sous l'emprise d'un esprit mauvais. Et la question est de comprendre comment il est possible que les autres ne s'en soient pas aperçus. Sans quoi, il aurait évidemment été exclu de la synagogue. À l'époque, on était exclu pour moins que ça. Comment est-il possible que cette communauté qui se retrouvait toutes les semaines, ce n'était pas comme la pratique dominicale d'aujourd'hui, c'était vraiment chaque sabbat, pour prier, ce n'était pas la même démographie. Ils se voyaient pendant la semaine, soit au travail, soit en fonction des liens familiaux. Ils discutaient entre eux. Comment n'avaient-ils pas perçu que cet homme, leur frère, leur prochain, avait cet esprit mauvais avant qu'il se mette à hurler « Que nous veux-tu, Jésus ?» Alors, on peut imaginer comme toujours que certains ont dit après coup qu'ils se doutaient de quelque chose, qu'ils n'avaient rien osé dire. Vous savez, la banalité du mal qui devient presque normale. L'explication que je vous propose est un petit peu différente, mais fondamentalement complémentaire. Pourquoi est-ce que ses frères à la synagogue, ne s'étaient-ils pas rendus compte que cet homme était sous emprise? C'est parce qu'à la synagogue, hommes et femmes étaient séparés. Les femmes étaient à part et elles n'étaient pas écoutées. Les hommes ne prenaient pas leur avis. En tout cas, pas sur ces sujets-là, je ne sais pas sur quel avis. Ce que l'Évangile dit de Pilate au moment de la passion de Jésus est tout à fait remarquable, quand bien même Pilate était un païen. L'Évangile dit que Pilate savait que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus, tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste !» Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Et Pilate n'a écouté ni sa conscience, ni sa femme. Il n'est jamais trop tard. Il a fallu des siècles. Et la mise au grand jour des pires abus commis par des hommes d'église pour que les évêques fassent entrer des femmes dans leurs conseils. Conseil de gouvernance, conseil de nomination, conseil de séminaire, avec combien de réticences, nous n'en sommes vraiment qu'au début, mais combien de réticences de mélange de misogynie et de corporatisme. Corporatisme à l'égard de tous les laïcs, hommes ou femmes. Mais ce n'est pas vrai des paroisses. Les paroisses sont tenues et ont toujours été tenues majoritairement par des femmes. Heureusement, c'est comme ça qu'elle fonctionne, et cette paroisse ne départ pas. Si vous regardez la liste de tous les responsables d'activité, tous ceux qui font vivre cette paroisse, c'est une grande majorité de femmes. Elles font autant d'erreurs que les hommes. Ce n'est pas un critère. Il ne suffit pas d'être une femme comme il ne suffit pas d'être prêtre. Mais ce que je peux dire, c'est que depuis que je suis prêtre, je n'ai jamais pris de décision importante ou non, de décision sans consulter, c'est-à-dire des non-prêtres, d'autres personnes que des prêtres, des laïcs, en particulier des femmes, parce qu'elles sont les plus nombreuses dans l'Église, et même, pour être plus précis, pas tant des femmes que des mères. Des femmes qui ont eu des enfants ou qui ont élevé des enfants. Et je suis convaincu que la mère de cet homme, dans la synagogue, qui avait un esprit mauvais, le savait, ou elle l'aurait su si elle était encore en vie. Vu l'espérance de vie à l'époque, vu le taux de mortalité des femmes lors de leur grossesse, à l'époque, les hommes mouraient à la guerre et les femmes en couche. C'est là un élément très important de notre vénération de la Vierge Marie. Une mère, une femme qui a porté un enfant en son sein, peut, je dis peut, c'est pas automatique, mais elle peut avoir une perception plus intérieure, plus fine, plus intuitive de l'être humain. Et je constate en tout cas, et je bénéficie en tout cas de ce que nombre de femmes perçoivent avec beaucoup de justesse du mode de relation d'un homme aux autres, des personnes entre elles, d'un prêtre aux femmes, la façon dont il a intégré sa sexualité, son comportement tout court. Heureusement que j'ai autour de moi et que j'ai des amies femmes pour me rappeler régulièrement à l'ordre, je veux dire au sacrement de l'ordre. Et surtout pour dire, par exemple, que je suis vraiment trop péremptoire. Vous imaginez si elle ne me le disait pas ce que ce serait? Mais je promets de faire attention, de faire des efforts. Laissons l'Église avancer sur ce sujet de la place de la femme. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que l'ordre sacramentel soit toujours davantage au service de la charité. C'est ça, l'objectif. Que tous, ensemble, nous formions un seul corps au service de la charité. Pour nous attacher, ce matin, à ce qui fait le quotidien de la majorité, pas seulement des chrétiens, de tous les êtres humains, à savoir l'amour conjugal, dans son expression la plus essentielle, la complémentarité de l'homme et de la femme. Et je le dis souvent aux jeunes que je rencontre, je leur dis, les garçons, écoutez votre mère quand elle n'est pas trop possessive. Écoutez vos sœurs, si vous en avez. Écoutez-les surtout quand vous rencontrez celles à qui vous voulez unir votre vie. Je veux dire, un seul conseil, prenez conseil. En sachant qu'on vous les donnera, pour autant que vous les demandiez aux bonnes personnes et que vous les ayez à minimum suivis par le passé. Je grandis chaque jour de ce que les fidèles du Christ, de ce que vous tous, hommes et femmes, vous me dites de Dieu, du Christ, de l'Esprit-Saint. Parmi les plus beaux témoignages que j'ai reçus, qui portent ma foi, figurent ceux de femmes et de mères que Jésus a sauvées, a révélées à elles-mêmes, à qui le Christ a donné sens à leur vie. Et chaque jour, je prie la Vierge Marie. Vierge Marie, aide-moi à déjouer les esprits mauvais. Puisque c'est ainsi qu'elle est représentée, c'est ainsi que tu es représentée, Marie. Marie, écrasant la tête du démon, l'antique serpent que Dieu avait prévenu, elle t'écrasera la tête tandis que tu la mordras au talon. C'est Marie qui écrase la tête du démon.